Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce lundi 9 février 2015. À la une ce soir.
Boko Haram récidive. Un nouvel obus est tombé ce matin dans un marché de Diffa. Cette ville du sud-est du Niger subit depuis vendredi des attaques de la secte islamiste nigériane.
L'attaque de Boko Haram à la prison civile de Diffa. L'attaque a été refusée par les forces de défense de sécurité qui se trouvent au niveau de prison sur la prison de Diffa.
Nouveaux affrontements entre groupes armés rivaux non loin de Tessit dans le nord du Mali.
Au Gabon, grève peu suivie dans l'administration publique ce lundi. Seul le secteur de l'enseignement secondaire a été perturbé.
Nous reviendrons sur les Grammys, les plus hautes récompenses dans le domaine de la musique aux États-Unis.
Et sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le triomphe des éléphants de la Côte d'Ivoire sur les Black Stars du Ghana.
Je pense qu'ils ont accompli cette mission et le public, la population leur rend hommage.
Mais d'abord, le journal.
Un nouvel obus est tombé ce matin dans un marché de Diffa, marché qui avait déjà été la cible d'un obus hier. C'est dans ce contexte qu'à Niamey, le Parlement nigérien discute de l'envoi de soldats pour combattre Boko Haram au Nigeria. La ville de Diffa, dans le sud-est du pays, subit depuis vendredi des attaques répétées des djihadistes. Idriss Fall a joint sur place Adam Baboukarna, un habitant de Diffa.
Dans la nuit, il y a eu une attaque d'éléments de Boko Haram à la prison civile de Diffa. L'attaque a été refusée par les forces de défense et sécurité qui se trouvent au niveau de prison, sur la prison de Diffa. Le bilan est de 2 morts côté assaillant et 1 côté défense de sécurité.
Et dans le même temps, il y a eu une attaque hier dimanche à Diffa aussi.
Oui, hier, il y a eu une explosion d'éléments là. Il y a fait au moins 1 mort et 1 blessé.
Est-ce que c'est un kamikaze ou un obus qui est tombé en centre-ville?
Non, c'est un obus, c'est pas un kamikaze.
Et dans le même temps, vendredi aussi, il y a eu une autre attaque.
Oui, vendredi, il y a eu à Diffa et à Bosso. Bon, le bilan, c'est au niveau de Bosso, il y a eu 106 assaillants qui ont été tués contre 2 éléments de force de défense de sécurité.
Adam Baboukarna, un habitant de Diffa au Niger.
A noter aussi qu'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram, s'est moqué de la mise en place d'une force régionale dans une vidéo publiée ce lundi. Rappelons que les troupes tchadiennes, camerounaises et nigériennes prêtent main forte à l'armée nigérienne.
Les autorités du Nigeria rassurent, il n'y aura pas de nouveau report des élections présidentielles et parlementaires au-delà du 28 mars. C'est du moins ce qu'a déclaré à l'AFP ce lundi Sambo Dasuki, le conseiller à la sécurité du président Goodluck Jonathan. Jacques Aristide.
La garantie du conseiller Dasuki survient au lendemain de vives critiques qu'a suscité la nouvelle date annoncée samedi par la commission électorale. Les scrutins étaient initialement prévus le 14 février. L'opposition nigériane estime que c'est la baisse de popularité du candidat Jonathan qui en était la vraie raison et non l'argument officiel de la mobilisation militaire contre Boko Haram. Pour Sambo Dasuki, les forces de sécurité mobilisées contre le groupe islamiste dans le nord-est ne pourraient pas assurer la sécurité des électeurs sur l'intégralité du territoire. Il a juré que l'armée parviendrait à annihiler Boko Haram dans les 6 prochaines semaines, à l'heure où le chef de la secte, Aboubakar Shekau, a lui promis dans une nouvelle vidéo publiée ce lundi la défaite de la force militaire régionale qui se met en place. Après le report, Muhammadu Buhari, le candidat de l'opposition qui sera opposé au président sortant, a appelé ses partisans au calme, rapporte Reuters. Au total, 14 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel.
Nouveaux affrontements dans le nord du Mali. Ces heurts ont opposé des groupes armés rivaux non loin de Tessit. Le MNLA accuse l'armée malienne de combattre aux côtés du Gatia, mais Bamako dément catégoriquement.
Au Gabon, grève peu suivie dans l'administration publique ce lundi. Les syndicats de la fonction publique avaient appelé à une grève générale, mais selon Fridolin Demessa, le président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon, c'est seulement le secteur de l'enseignement secondaire qui a été perturbé. Il affirme aussi que des négociations sont en cours avec le gouvernement.
Il se trouve que le Premier ministre a convié à une réunion pour que la situation soit décantée le plus rapidement possible. Les travailleurs, dans leur ensemble, demandent l'amélioration de leur traitement, c'est-à-dire la valorisation du point d'indice et du SMIG, l'adoption d'un nouveau code du travail et la négociation des conventions collectives dans le privé. Donc voilà les principales revendications qui sont posées sur la table, sans oublier le problème de prise en charge des fonctionnaires dans leur ensemble concernant la situation des hôpitaux de Libreville et de tout le Gabon. Nous ne voulons pas rester dans la crise, mais nous voulons que les choses bougent et bougent dans le plus rapidement possible, dans le bon sens et pour le bien des travailleurs dans leur ensemble. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on décide de rentrer en grève. On sent que l'administration traîne le pas et nous voulons amener le gouvernement à agir rapidement. C'est pourquoi nous déclenchons souvent des mouvements de grève.
Fridolin de Messa, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon.
Et grève des gardes pénitentiaires en Côte d'Ivoire. L'armée et la police ont pris le contrôle des prisons aujourd'hui. C'est ce qu'indique l'AFP. La mesure intervient au lendemain du désarmement des gardiens de prison qui réclamaient de meilleurs salaires.
Colère à Conakry suite à l'interpellation d'un imam hier pour avoir pratiqué des rites funéraires sur une possible victime d'Ebola. Des manifestants qui ont érigé des barricades et brûlé des pneus se sont affrontés avec les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène et de matraques. L'AFP compte une dizaine de blessés.
Toujours en Guinée, plusieurs organisations de la société civile ont appelé à faire la lumière sur le meurtre la semaine dernière d'un ministre de la transition militaire en 2010, Thierno Aliou Diaoné, assassiné à Conakry par des inconnus et inhumé ce lundi.
Plus de 2,5 millions de Sud-Soudanais menacés par la famine. Les Nations Unies, qui estiment avoir besoin de 1,8 milliard de dollars pour leur venir en aide, appel au don d'après l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 80 personnes, pour la plupart en fuite, sont jugées en Tunisie pour leur implication présumée dans une attaque contre l'armée en 2013, dans laquelle 8 soldats avaient été tués sur le mont Chambi, à la frontière avec l'Algérie. Selon l'AFP, qui cite le parquet, le procès, dont la première audience s'est tenue en décembre, a été reporté lundi au 6 avril. Seules 6 des 77 personnes poursuivies sont en détention et une septième est jugée mais reste libre.
L'Union européenne a décidé de retarder la prise de nouvelles sanctions contre les séparatistes ukrainiens et la Russie.
La crise ukrainienne a fait l'objet donc d'entretiens aujourd'hui à la Maison-Blanche entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président Barack Obama. Et l'Union européenne donc a de son côté décidé de retarder l'application de nouvelles sanctions aux séparatistes ukrainiens et à la Russie. Et Timothée Donangmaï est avec nous en plateau.
Et lors d'une conférence de presse conjointe, le président Obama et la chancelière Merkel ont accusé la Russie de poursuivre son agression contre l'Ukraine en appuyant les séparatistes ukrainiens. Il est clair qu'ils ont violé pratiquement tous les engagements pris sous l'accord de Minsk. Au lieu de se retirer de l'est de l'Ukraine, les forces russes continuent d'y opérer, formant les séparatistes et les aidant à coordonner les attaques. Au lieu de retirer ses armes, la Russie a envoyé plus de chars, de véhicules blindés, de transport de troupes et de pièces d'artillerie lourdes, a déclaré le président Obama. Le chef de l'exécutif américain a dit avoir demandé à son équipe d'examiner toutes les options, y compris celles des armes létales défensives, pour le cas où la diplomatie échouerait. Pour sa part, la chancelière Angela Merkel a fait savoir qu'elle espère qu'une solution diplomatique sera trouvée en dépit des revers, réitérant qu'elle ne voyait pas de solution militaire au conflit ukrainien. Les pays de l'Union européenne se sont entendus aujourd'hui sur de nouvelles sanctions visant 19 personnes, dont 5 Russes, ainsi que 9 organisations, mais l'application dépendra de la situation sur le terrain, a expliqué à la presse le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius.
Au Yémen, les négociations visant à résoudre la crise politique ont repris aujourd'hui sous les auspices de l'ONU. Cependant, deux des parties impliquées dans ces pourparlers ont quitté l'hôtel à Sanaa, disant qu'ils ont subi des menaces de la part d'un représentant de la milice Houthi. Cette puissante milice chiite a pris le contrôle de la capitale yéménite depuis septembre et la semaine dernière, elle s'est emparée du gouvernement après avoir dissous le Parlement et contraint le président soutenu par l'Occident, Abdirabo Mansour Hadi, à la démission. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé au retour du président Hadi à la tête de l'État.
Afghanistan, un militant influent dans la province de Helmand a été tué aujourd'hui dans une frappe de drone. Mullah Abdurraouf, un ancien détenu de Guantanamo, et 5 autres militants ont trouvé la mort alors qu'ils circulaient en voiture. Les autorités afghanes n'ont pas fourni d'autres précisions. Selon des rapports de presse, Raouf, qui est revenu en Afghanistan en 2007, avait commencé à recruter des combattants pour le groupe État islamique.
Et plus de 20 migrants sont morts de froid sur une embarcation qui a été secourue dans la nuit de dimanche à ce lundi par des gardes-côtes italiens, a annoncé aujourd'hui une source médicale à l'AFP. Selon les médias italiens, le total des morts pourrait atteindre 25 à 27 migrants. L'alerte avait été donnée dimanche après-midi par les migrants à l'aide d'un téléphone satellitaire. Le centre opérationnel des gardes-côtes a dépêché sur place deux navires marchands qui se trouvaient dans la zone, ainsi que deux vedettes parties de Lampedusa.
Ouverture du G20 à Istanbul en Turquie, les ministres des Finances et représentants des banques centrales des 20 pays les plus riches tenteront de coordonner des mesures visant à stimuler la croissance économique mondiale.
Voilà pour le journal Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
La Banque mondiale se penche sur les problèmes d'électricité récurrents en Afrique.
Oui, dans un nouveau rapport, la Banque mondiale appelle l'industrie minière à collaborer avec les compagnies d'électricité au lieu de générer leur propre électricité. Les mines pourraient être des clients essentiels pour elles, souligne le rapport. Les compagnies d'électricité pourraient ainsi mettre en place de meilleures infrastructures qui leur permettraient de fournir une électricité bon marché à la population locale.
À ce propos, les Sud-Africains doivent prendre leur mal en patience pour la fourniture en électricité.
En effet, la Compagnie nationale d'électricité sud-africaine a appelé la population à se préparer à de nouvelles coupures cette semaine. Eskom tente de faire face à une demande de consommation d'environ 30 000 mégawatts. Le pays connaît une importante pénurie d'électricité depuis plusieurs semaines avec des coupures de près de 24 heures d'affilée dans certaines régions.
Le Burkina Faso et les Pays-Bas vont faire affaire ensemble.
Absolument, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso va envoyer des chefs d'entreprise aux Pays-Bas pour la première fois du 13 au 17 avril. J'ai contacté à ce propos Félix Fanon, directeur des services aux entreprises et de la coopération à la CCI.
La mission que nous organisons précisément aux Pays-Bas vise à offrir l'opportunité aux hommes d'affaires du Burkina Faso de rencontrer leurs homologues néerlandaises et d'envisager avec elles des partenariats d'affaires afin de renforcer leurs capacités et contribuer ainsi plus activement à l'accomplissement des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté. Et c'est aussi l'occasion pour nous également de faire connaître les produits que nous pouvons offrir aux Pays-Bas.
Félix Fanon est également coordonnateur du Forum économique Africalia.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, place maintenant à la page sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Abidjan et toute la Côte d'Ivoire en fête depuis hier soir.
Oui, après le titre obtenu hier sur la pelouse de Bata, la Côte d'Ivoire est ivre de bonheur pour cette deuxième CAN obtenue à l'arraché au tir au but comme en 1992. Des dizaines de milliers de personnes sont massées depuis ce matin dans les rues de la capitale économique ivoirienne et dans le stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer les héros, notamment Kopa Bari, le gardien qui a inscrit le dernier pénalty qui a donné la victoire à son équipe.
Maigre consolation pour le Ghana, Nicolas.
Oui, car Atsu a été élu meilleur joueur du tournoi. Je vous rappelle que les Black Stars courent après une Coupe d'Afrique des Nations depuis 1982. Leur dernier succès, c'était en Libye.
Le foot toujours, mais une actualité moins heureuse.
En Égypte, le championnat de première division a été reporté jusqu'à nouvel ordre. La primature égyptienne a fait cette annonce après les affrontements meurtriers hier qui ont coûté la vie à une vingtaine de personnes au Caire.
Et parlons maintenant de basket nord-américain, la NBA, quelques résultats.
Toronto a battu San Antonio 87-82, privant l'entraîneur des Spurs, Greg Popovich, d'une millième victoire en NBA. Atlanta, la meilleure équipe depuis le début de la saison, a concédé une dixième défaite à Memphis, 94-88. Emmené par un grand Paul Gasol, 25 points, 15 rebonds, Chicago a signé une 32e victoire en s'imposant de justesse à Orlando, 98-97. Les Bulls grimpent à la troisième place de la conférence Est, à égalité avec Washington, qui ne jouait pas hier. Cleveland s'est imposé face aux Los Angeles Lakers 120-105. Enfin, Oklahoma City a battu Los Angeles, les Clippers 131-108.
Aujourd'hui, le phénomène prend des...
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Le développement des pays africains risque d'être ralenti pour cause de corruption. Le phénomène est très présent sur le continent, au point où la corruption est perçue par les populations comme étant normale. Des actions en faveur de la société civile sont engagées pour que les associations et mouvements syndicaux puissent s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. Reportage à Lomé de Kayi Lawson.
Aujourd'hui, le phénomène prend des proportions inquiétantes et fait le lit d'autres fléaux tels que le détournement de deniers publics, le blanchiment d'argent et la fuite de capitaux. Tchèque Tidiane Ba du Forum Civil, la branche sénégalaise de Transparency International.
La fuite des capitaux, c'est une préoccupation majeure des organismes internationaux, des États, mais également des citoyens qui doivent en bénéficier les premiers de ces fonds qui devraient être réinvestis dans les secteurs les plus attendus de la nation, tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable. Et beaucoup de pays de l'Afrique sont touchés par ce phénomène, du fait des agents publics qui détournent des deniers publics. Et là, c'est un véritable problème. L'argent souvent est blanchi et échappe au contrôle du fisc.
La lutte contre la corruption fait partie des critères sur lesquels les États-Unis d'Amérique se basent pour accompagner le développement dans un pays. Dana Banks, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Togo.
Les pays qui fonctionnent de manière ouverte et responsable bénéficient de plus d'assistance et d'investissement que ceux où la corruption est élevée. La corruption doit être supprimée là où elle existe, au profit du développement et du bien-être des citoyens d'un pays. Beaucoup de pays en voie de développement sont les plus corrompus, car le fleuve de la corruption est si répandu que les gens l'acceptent comme un moyen nécessaire pour obtenir un service.
Parlant des mesures pour endiguer la corruption, l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSIT, estime que le Togo doit adopter le plus tôt possible son nouveau code pénal qui criminalise la corruption. Pascal Adjoté, coordonnateur du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite de l'UNSIT.
Le projet de loi du 7 novembre 2012 portant un nouveau code pénal du Togo est sur la table de l'Assemblée nationale. Si on le vote, ce serait très bien parce que ce nouveau code est le seul qui comporte maintenant l'incrimination de l'enrichissement illicite. Surtout, nous osons croire qu'avec encore l'initiative du gouvernement à mettre en place une haute autorité de lutte contre la corruption, ça va amener à lutter contre un certain nombre de dysfonctionnements.
Dans son rapport publié le 3 décembre dernier sur la perception de l'indice de la corruption dans le monde, l'ONG Transparency International affirme que l'Afrique et l'Asie, les deux régions du monde à forte potentialité de croissance, sont les plus corrompues. Kayi Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Nous allons maintenant, Morgane, parler d'une expérience un peu particulière en Californie. Entre la prison d'État de San Quentin et les quartiers riches de San Francisco, il n'y a qu'une distance de 32 km, mais pour les résidents de San Quentin, il y a un écart apparemment impossible à combler, l'accès au monde de la haute technologie qui caractérise cette région de la Californie. Mais ça semble changer, Lionel Gaïma.
Certains des prisonniers de San Quentin apprennent le codage informatique, l'une des compétences les plus convoitées sur le marché du travail. C'est une première dans le milieu carcéral aux États-Unis. 18 détenus sont assis devant les écrans d'ordinateurs écoutant attentivement leur instructeur via une liaison vidéo.
Bingo, here we go.
Bienvenue à Code 7370, la nouvelle classe de codage informatique qui a commencé l'an dernier dans cette célèbre prison de la Californie. Gary Valentino Hollis apprend à construire une page web-based en utilisant différents langages et normes telles JavaScript, HTML et CSS. Il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat dans les années 1990 et il a été en prison pendant les 20 dernières années. Il sera diplômé de la classe de codage en avril 2015, juste en temps pour sa sortie de San Quentin.
Oh my God, this is truly an honor and a blessing to be in this type of setting.
Oh mon Dieu, c'est vraiment un honneur, une bénédiction d'être dans ce genre de programme, surtout ici en prison. C'est un rêve inouï car il permet à beaucoup d'hommes d'espérer, comme moi. Je vais sortir dans 108 jours, mais qui compte? Je sais qu'en sortant d'ici, j'ai une compétence que je peux mettre à profit pour moi et ma famille et je peux être un citoyen plus productif que je ne l'étais il y a une vingtaine d'années. Tout le monde mérite une nouvelle chance, alors ce programme est ma nouvelle chance, mon nouveau mode de vie. La classe de codage de la prison a été lancée par l'organisation à but non lucratif de Last Mile. Cette organisation basée à San Francisco a été fondée par deux vétérans de l'industrie de la haute technologie, Chris Redlitz et Beverly Parenti. Ils ont dû surmonter divers problèmes. D'abord, l'accès à Internet, car les prisons américaines ne permettent pas aux détenus d'aller en ligne. Ils ont développé un programme qui ne nécessite pas de connectivité. Le deuxième problème, la moitié des prisonniers ne savaient pas comment utiliser un ordinateur. Le codage pour eux, c'était comme du grec. Mais ce cours intensif de 6 mois avec des classes de 10 heures par jour et 4 jours par semaine leur a permis de se rattraper. Et maintenant,
you know, the opportunities are huge, especially in this industry.
Oui, les possibilités sont énormes, surtout dans cette industrie. Si vous pouvez bien écrire le code, les gens ne se soucient pas beaucoup de votre passé. Vous aurez un emploi. L'espoir des organisateurs, c'est qu'avec une meilleure situation sociale, ces détenus ne retourneront pas en prison.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Nous partons en Côte d'Ivoire. Les éléphants vainqueurs de la 30e édition de la CAN ont regagné Abidjan ce lundi. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'était l'hystérie, nous dit Germaine Dré, notre correspondant à Abidjan.
L'avion qui a transporté les éléphants footballeurs est arrivé à 14h26 dans un aéroport bondé de monde où chanteurs, danseurs, hommes d'affaires, politiques, observateurs et curieux se sont donné rendez-vous. Au bas de l'échelle de coupé, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a aperçu les premiers joueurs descendre, n'a pu contenir sa joie.
Bravo aux éléphants, on a une équipe formidable. L'équipe a été cohérente, elle a été solidaire, elle a fait un jeu qui équivaut d'être en quart de finale de la Coupe du Monde.
Les Ivoiriens pensent que cette victoire peut apporter beaucoup au pays.
Cette année, ce qu'elle a réalisé, c'est le grand chelem. Je pense qu'ils ont accompli cette mission et le public, la population, leur rend hommage. Et en premier lieu, le premier responsable de ce pays.
C'est un événement, donc non seulement un facteur de conciliation nationale, il faut absolument que cette victoire soit pour nous un de ces moments-là forts dans notre nation pour qu'on arrive réellement à devenir cette nation émergente.
Cette réception des éléphants comporte plusieurs articulations. La distinction des joueurs et leurs encadreurs et le dîner prévu ce soir même avec le président de la République. Germaine Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
La vedette béninoise Angélique Kidjo a remporté dimanche son second Grammy, récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, qu'elle a dédié aux femmes d'Afrique. Cette 57e cérémonie des Grammy, diffusée sur la chaîne CBS, s'est déroulée au Staples Center de Los Angeles. Un événement marqué par plusieurs prises de position d'artistes contre le racisme et la violence conjugale aux États-Unis. Jacques Aristide.
L'Afrique à l'honneur par la voix d'Angélique Kidjo. Après Jin Jin en 2007, la béninoise, l'une des voix les plus connues du continent africain, a donc de nouveau décroché le trophée pour le meilleur album dans la catégorie « Musique du monde ». Une catégorie difficile où était également en compétition le chanteur brésilien vedette Sergio Mendes. Pour Eve, Angélique est retournée au Bénin pour capter les rythmes et harmonies des chœurs de femmes. Et en recevant son prix, c'était tout naturel pour elle de le dédier, dit-elle, aux femmes d'Afrique, à leur beauté et leur résilience. Angélique Kidjo.
Nous ne devons pas catégoriser la musique. Elle doit être tout simplement musique. Simple, claire, parce que c'est une langue universelle. Si nous pouvons faire de la musique classique avec le hip-hop, avec n'importe quel genre de musique, comment pouvons-nous continuer à dire que la diversité musicale doit être coupée en petits morceaux ?
Un autre Africain a été récompensé lors de ces Grammy Awards, le compositeur sud-africain Wouter Kellerman, pour le meilleur album de la musique New Age. Mais le grand vainqueur de la soirée n'est autre qu'un nouveau venu, le jeune chanteur anglais de 22 ans, Sam Smith, qui a décroché 4 prix. Son tube « Stay With Me » a notamment été sacré chanson de l'année.
Sam Smith.
Dear Lord, thank you so much. Thank you to the Academy. Thank you all. This is the best night of my life.
La cérémonie a également été marquée par les prises de position des artistes américains Beyoncé et Pharrell Williams contre les violences policières envers les Africains-Américains aux États-Unis. Pharrell et Beyoncé qui ont remporté 3 prix chacun.
I'd like to thank God. This has been such an incredible year.
Quant au chanteur Prince, en remettant le prix du meilleur album, il a lancé « Les albums comptent encore, comme les livres et les vies des Noirs ». Pour sa part, le président américain Barack Obama a profité de la tribune des Grammys pour appeler ses concitoyens à lutter contre le viol et la violence conjugale. Un message suivi par le témoignage de l'activiste et victime de violences conjugales, Brooke Axtell. Invité à partager son expérience par la chanteuse Katy Perry avant de chanter la pièce « By the Grace of God ». Et puis, comme il fallait peut-être s'y attendre, une nouvelle blague ratée de Kanye West après un incident similaire en 2009. Le rappeur américain est monté sur scène sans y avoir été invité au moment de la remise du trophée de l'album de l'année au chanteur Beck. Une façon pour Kanye West de dire que ce n'est pas cet artiste qui a coiffé au poteau Beyoncé, Ed Sheeran, Pharrell Williams et Sam Smith qui aurait dû être primé.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou de VOA Afrique. Aujourd'hui dans RM Show, ne ratez pas, Angélique Kidjo sera notre invitée. La chanteuse Angélique Kidjo, l'une des grandes stars de la musique africaine, a gagné dimanche son second Grammy, récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, dédié aux femmes d'Afrique, auquel elle a rendu hommage. Ne ratez pas une émission spéciale seulement aujourd'hui dans RM Show. Aussi, nous parlerons sport, nous parlerons de la victoire de l'équipe ivoirienne à la Cannes 2015. RM Show, et c'est trop douda. Appelez donc pour participer au 001-202-619-3140. 001-202-619-3140. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points d'actualité. Boko Haram récidive, un nouvel obus est tombé ce matin dans un marché de Diffa. Cette ville du sud-est du Niger subit depuis vendredi des attaques des islamistes nigérians de Boko Haram.
Il n'y aura pas de nouveau report des élections présidentielles et parlementaires au-delà du 28 mars, rassurent les autorités du Nigeria.
Nouveaux affrontements entre groupes armés rivaux non loin de Tessit dans le nord du Mali.
Au Gabon, grève peu suivie dans l'administration publique. Ce lundi. Et il faut dire aussi, Morgane, que la chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue aujourd'hui à la Maison Blanche avec le président Barack Obama de la situation en Ukraine. Et quel temps fait-il ? 29 degrés centigrades à Lomé, 37, hein, très chaud à Niamey au Niger, mais seulement 5 degrés Celsius ici à Washington.
La mise en onde de cette édition a été assurée par Michel Joseph.
Avec Wagner Robert à la console technique.
À la présentation, Morgane Guiriaquet chez Robin Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM, 96.6, Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.